Bonjour ou bonsoir et bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Blau au micro et Nicolas Verdman à la technique. C'est la deuxième édition de la semaine, aujourd'hui c'est mardi. C'est bien ça, je ne me trompe pas de date, hein. Voilà, ça c'est clair. Et puis bon, ben, on va démarrer l'émission aujourd'hui avec notre chroniqueuse de bénévolat, Marie-Danielle Boucher, qui va nous parler de bénévolat de compétences et bénévolat d'affaires. Est-ce que c'est la même chose? Non. Pourquoi est-ce que plus fréquent maintenant qu'avant, et quelques exemples de cette façon de s'impliquer aussi dans le monde communautaire, elle est très mieux placée que moi pour parler de ça. Voilà, et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Sahara Tolston, qui est spécialiste de campagne fraude des fruits de mer à Oceana Canada. Voilà, elle va nous parler un peu de la disparition ou bien de l'extinction des baleines noires. Voilà, de l'autre côté là-bas, dans l'Atlantique Nord, et puis bon, ben, c'est une manière de dire au Transport Canada peut aller plus loin pour protéger ces baleines noires qui sont gravement menacées dans le détroit de Cabo. Voilà, donc le ralentissement des navires doit être rendu obligatoire afin de mieux protéger les baleines noires qui sont au bord de l'extinction. Donc Sahara Tolston, qui est spécialiste de campagne de fraude de fruits de mer à Oceana Canada, va nous parler de ça en deuxième partie d'émission. Alors, on part tout de suite en musique avant de recevoir notre premier invité. Avec qui? David Fleury, Canyon Land.
Quel diable m'emporte? Car Dieu, j'abandonne. Quand je lui ouvre la porte, le silence résonne. Je prends l'habitude de rire sur commande. Et je me parfume le cou et les mains. Comme je parais bien, parais que tout va bien. Thank you.
c'était David Fleury, Canyonland. Notre invité est déjà au bout du fil, Marie-Danielle Boucher, qui va nous parler un peu de bénévolat. Je suis content de la retrouver. D'abord, je vais lui souhaiter, même si on est en février, je vais lui souhaiter quand même bonne année, non? Oui, je peux me permettre.
On se l'était souhaité, mais mon cher Fulgence, moi, je voulais vous féliciter de vive voix. Oui. J'ai appris que vous étiez nominé au prix Média Dynastie. Qui a eu le 27 février prochain.
Merci.
Alors, je suis toute excitée pour vous.
Merci. Ouh. Merci beaucoup, Marie-Danielle. Merci beaucoup.
Vous êtes dans une bonne catégorie. Vous êtes en compétition avec Nicolas Ouellette.
Oui. Ah ouais. De Radio-Canada, en plus.
De Radio-Canada, oui. Hein.
Je ne sais pas. Ah, je vais te le dire. Je ne sais pas qui a donné mon nom là-bas. Je ne sais pas.
Mais vous le méritez amplement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Danielle. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Alors, aujourd'hui, vous allez nous décrire deux choses complètement différentes. C'est-à-dire quoi? Bénévolat de compétences et puis bénévolat d'affaires. Voilà.
Si vous c'est presque la même chose.
Voilà.
En fait.
Parce que si on me demande d'expliquer ça, moi, je suis complètement perdu là. Pour moi, là, ce serait quelque chose que... Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je suis très content de vous retrouver. C'est la première de l'année 2022. Hein.
Je suis votre spécialiste du bénévolat.
C'est ça.
Mais en fait, le bénévolat d'affaires, c'était pour inciter les gens d'affaires, les personnes avec des professions libérales, avec des compétences spécifiques, on voulait qu'ils s'impliquent dans le milieu communautaire parce que le milieu communautaire est toujours à la recherche de professionnels à titre de bénévole.
Oui.
Puis, on avait besoin de leur expertise et de leur expérience parce que la plupart, tous les organismes communautaires, en fait, sont régis par des conseils d'administration.
Oui.
Alors, comme dans le milieu des affaires, les conseils d'administration sont gérés par des actionnaires dans le milieu communautaire, les conseils d'administration sont gérés pour les membres et on a besoin d'actionnaires, donc pas d'actionnaires, mais on a besoin de membres et de professionnels qui s'y connaissent en gestion pour avoir une saine gouvernance.
Wow.
Donc, en développant un bénévolat qu'on disait bénévolat d'affaires, on voulait un peu flatter ce milieu-là pour les intéresser au monde du bénévolat.
Ah, c'est une manière de le mettre un peu de pommade pour dire, bon, venez, vous avez les moyens, ou les hommes d'affaires, venez, venez dépenser un peu avec nous, voilà. Ou bien intéresser un peu à nous, à ce qu'on fait, quoi, quelque part.
Oui, parce que quand on parlait du bénévolat d'affaires, on voulait justement attirer ces gens-là qui avaient un savoir-faire,
oui.
Mais aussi on voulait également profiter de leur réseau de contacts pour appuyer les causes quand on avait des levées de fonds à faire, notamment pour les grandes fondations. Donc, c'était vraiment dans une approche mercantile, mais il y a plein de gens de toutes sortes de professions qui se sont mis à investir le bénévolat avec leurs compétences. Puis, on a vu un peu que le profil des bénévoles avait changé avec les années.
Ah,
maintenant, on doit s'adapter. On a des bénévoles qui sont plus instruits et qui ont des besoins d'accomplissement. Ah. Ils veulent venir nous aider parce que ils sont fiers de leur expertise, ils sont fiers de mettre l'épaule à la roue.
Oui.
Mais au lieu de le faire sur une longue période de temps, ils préfèrent le faire comme par projet. Donc, par exemple, aider un organisme à développer sa stratégie marketing, aider un organisme à développer son site web, ses communications sur les réseaux sociaux.
Oui.
Donc, c'est pour ça que maintenant, on préfère parler de bénévolat de compétences.
Oh, OK.
Les compétences sont bienvenues.
Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus fréquent maintenant qu'avant?
Parce que vraiment, on s'est adapté à notre nouvelle clientèle de bénévoles.
Oui.
Puis, on s'est aperçu que vraiment, les gens aiment ça parce qu'ils voient vraiment le bénéfice de leur action. Ils, ils, en, il en voit vraiment un bénéfice immédiat.
Oui.
Donc, l'enrichissement est mutuel. L'association va bénéficier des compétences qu'elle n'aurait pas pu s'offrir, parce qu'on sait qu'on est financé avec une peau de chagrin.
Oui.
Et le bénévole, lui, vit une expérience nouvelle et souvent formatrice. Il va avoir pu développer d'autres talents en démontrant son savoir-faire et en appuyant une cause. Donc, c'est vraiment toujours gagnant-gagnant.
Oui.
Principalement sur les conseils d'administration, parce que bien évidemment, on cherche une mixité sur les conseils d'administration.
Oui.
Mais on a vraiment besoin de gens qui s'y connaissent avec les demandes de subventions, avec les stratégies de financement. Il y a certains organismes qui sont propriétaires de leur édifice, donc il y a des hypothèques à négocier. Ça, des fois, c'est des expertises un petit peu plus pointues.
Oui, oui, d'accord.
On n'a pas les moyens d'aller chercher des experts, donc on les attire avec les vertus du bénévolat.
Oh, oui, oui. je me suis dit... Bon. Là, je suis bien éclairé. Maintenant, ça me permet au moins de pouvoir faire la différence entre bénévolat de compétences et bénévolat d'affaires.
Oui, ben on parle aussi, vous avez peut-être déjà entendu le terme bénévolat pro bono.
Non.
Le terme latin pour désigner, pro bono, c'est le terme latin pour désigner le bien public. Puis
oui.
C'est exactement ça, c'est un travail qui est réalisé gratuitement par des professionnels pour une population défavorisée.
Oui.
Puis nous, au Québec, on les connaît principalement sous la forme de cliniques juridiques communautaires.
Ah.
Donc, on a ouais. des avocats qui vont prendre une cause et la travailler, s'investir de façon pro bono, sans chercher aucun bénéfice.
Oui, 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 oui.
Mais quand on parle de bénévolat de compétences, juste pour englober un peu là, toutes ces définitions-là, là, on a parlé bénévolat d'affaires, on a parlé bénévolat pro bono.
Oui.
Alors, c'est plus porteur de parler de bénévolat de compétences, parce que c'est le terme qui englobe tout ça.
OK. Bénévolat de compétences. Et donnez-nous quelques exemples de cette façon de s'impliquer dans le monde communautaire.
Ben, élaborer un plan de communication marketing, par exemple.
Oui.
Le bénévolat qui va aider les organismes avec le marketing ou les stratégies de communication, je pense que ça vient en première place du bénévolat de compétences.
Oui.
Les conseiller sur leur site web, les aider avec leur réseau informatique à développer une banque de données,
oui.
Offrir du coaching sur l'utilisation d'une saine gestion des ressources humaines, siéger à leur conseil d'administration, ça aussi j'en ai parlé tout à l'heure.
Oui.
On touche à la survie des organismes communautaires. Si on a un bon conseil d'administration, on peut aller très très loin. Donc.
Wow. Alors,
ouais.
Pour ceux qui nous écoutent là, qui voulaient se lancer dans le bénévolat de compétences ou bien le bénévolat d'affaires, qu'est-ce que vous avez à leur dire avant de vous laisser partir?
Ben nous, on a finalisé notre nouveau site internet.
Oui.
Alors, j'inviterais les gens à aller voir ce merveilleux site internet qui est le nôtre, accèsbénévolat.org,
oui.
Et à remplir leur candidature pour devenir bénévole, puis il y a une conseillère en orientation, moi en l'occurrence, une de mes collègues, qui va appeler la personne pour vraiment la guider, voir quels objectifs elle a, quelle cause lui tient à cœur, pour vraiment faire un jumelage réussi entre ce qu'elle a à offrir.
Ah oui.
Puis c'est vraiment gagnant-gagnant.
Oui, ça c'est le plus important quand même, le jumelage réussi.
Oui, puis je vais vous dire, c'est notre marque de commerce.
Oui.
On est assez bon.
Bravo.
Oui.
Accès bénévolat du centre de l'Est de Lille. Accès bénévolat. J'aime bien le nouveau look là, de votre site. Hein. J'aime bien ça.
Merci beaucoup. On en est très fiers.
Oui, oui, j'aime beaucoup ça. J'étais allé me promener un peu là. J'ai dit, waouh, quel nouveau look. Quel beau nouveau look.
Ouais. Oui, la navigation est plus facile.
Oui.
Puis, c'est un outil de travail vraiment fantastique.
Oui. Merci.
Les gens l'apprécient beaucoup. vous. Donc.
Ouais, moi, je j'aime ça.
Je vous apprécie beaucoup, cher Fulgence. Oh. Et qu'on vous souhaite ce prix Média Dynastie.
Oh. Vous savez quoi? Bon, ben, si je l'ai, tant mieux. Si je ne l'ai pas, bon, ben, l'essentiel, que j'ai été nominé, quoi. Finaliste, oui. Des nominés. Parmi les nominés.
Ben oui, finaliste, c'est un grand honneur. Félicitations encore.
Merci.
Vraiment heureuse de le souligner.
Merci beaucoup, Marie-Danielle Boucher. Ouais, responsable de formation chez Accès Bénévole l'Est de Lille. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver le mois prochain.
Au revoir, Fulgence.
Au revoir, Marie-Danielle. Au revoir. D'écouter qui ça c'est Mad Max Nitilini. Voilà, ouais, je vais parler un peu de danse. Je sais pas combien de minutes Nicolas me donne là pour arriver à la prochaine pièce musicale. Danse, célébrons le mois de l'histoire de des Noirs ensemble. Oui, voilà, afin de souligner la contribution historique et l'apport des communautés noires dans la société. Alors, on va célébrer ensemble toute la diversité qui fait de la danse ce langage universel qui nous rappelle et nous. Qui nous rassemble et nous passionne d'ailleurs. Donc, cette semaine d'ailleurs, il y a Sylvain et Marc qui va présenter son spectacle Rhapsody dès le 22 février. Donc, n'hésitez pas, plongez-vous dans l'univers de l'École supérieure de ballet du Québec. Allez-y découvrir l'histoire de la danse moderne d'ailleurs américaine. célébrer l'histoire des Noirs avec ce portrait de la chorégraphe aussi, Zab Mambango, qui n'arrête pas aussi. Elle a eu le prix du gouverneur général du Canada. Ça, c'est, elle est prof en philosophie, danseuse, chorégraphe, formatrice. J'aimerais bien qu'elle repasse ici sur les ondes de Canal M pour nous parler un peu de ce prix du gouverneur général qu'elle a reçu d'ailleurs. Et, ou bien ce serait bien. Voilà. Rhapsody, hommage à la danse libératrice. C'est le compte à rebours qui est lancé dans tout juste 20 danseurs qui vont fouler les planches de l'édifice Wilder avec Rhapsody de Sylvain Aymard. C'est imprégné d'une musique hypnotique et essentielle. Les corps s'abandonnent, guidés par une pulsion submersive. Manifestation, rassemblement ou rituel, la communion de ces esprits emportés, bouleversés et captifs. Voilà, donc la danse revendique sa place, révélant bien sûr au public l'identité unique de chacun des interprètes au fil de la pièce. Donc il met en mouvement le miroir d'une société en constant bouleversement. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit, Sylvain ? Nous avons hâte de vous la révéler. Moi, j'ai hâte de la découvrir. J'ai hâte. J'adore la danse. Comme dirait l'autre, la danse, c'est la poésie du corps. Ah oui. Donc, depuis toujours, il est fasciné par les pistes de danse et ceux qui les fréquentent d'ailleurs. Son désir est de capturer l'essence de ces rassemblements pour mieux mettre en relief ce qui constitue comme une forme de rituel païen dont la portée est profondément ancrée dans la contemporanéité. Sylvain Aymard. Et sera disponible aussi, c'est-à-dire Rhapsody, la pièce, sera disponible en web diffusion en direct les 25 et 26 février à 20h pour celles et ceux qui ne pourront pas se joindre à la soirée en direct, quoi, le 22. Voilà, donc ça va être au studio théâtre édifice Wilder du 22 au 26 février à 20h. Voilà, et aussi disponible en web diffusion, comme je viens de le dire avant, les 25 et les 26, à 20h. Et puis, vous pouvez aussi aller découvrir, à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, on est en pleine la danse jusqu'à la fin du mois de février, c'est la chorégraphe Zab Mambango et une de ses œuvres charnières, Mo Zonki. Elle est directrice artistique de la compagnie danse contemporaine montréalaise Zab Mambango, Niata, bien sûr. Et j'ai écouté une de ses entrevues là avec l'ONF avant de venir. C'est vraiment, elle est très dynamique, cette dame. On l'a déjà reçue ici une fois, ça fait longtemps, pour une autre pièce. Mais je pense bien qu'on aura l'occasion de la voir d'ici peu, ici encore, pour parler de son parcours, de ses projets, tout ce qui arrive, tout ce qui lui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je voulais parler un peu de quelque chose d'autre, mais le temps ne me le permet pas. On va aller écouter la dernière pièce de la première partie de l'émission. Oui, rapidement. Ouais. Vous ai choisi Tate McRae, Feel Like Shit.
Usually never cry at all. I would say I'm pretty tough, but it's been a couple weeks now and I still feel stuck in my lungs. And usually I go out on nights and I think of you once, but if they start playing that song I can't help but to think about us. Really thought I'd be done with the hardest part when I pulled myself out of your arms. Wish I knew that was only the start. And now I'm falling apart, cause last night for the very first time you didn't even try to call. Why? Won't lie, I thought I might die. I couldn't even sleep at all. And maybe I'll get felt, but But all that was going through my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well. Really thought I was done with the hardest part. When I pulled myself out of your arms, wish I knew that was only the start.
McRae. Voilà, c'est fini comme ça avec cette pièce. C'est la dernière de la première partie de l'émission. Restez à l'écoute après la petite pause publicitaire et la première pièce musicale. Oui, je vais recevoir Sayara. C'est bien ça, c'est son nom. C'est Sayara Thurston, qui est spécialiste de campagne fraude de produits de la mer Oceana Canada. Voilà, c'est pour la survie des baleines noires qui sont en extinction. Là, c'est il faut aller vite, il reste pas assez. Dans l'Atlantique Nord, elle est très bien placée pour ça. Oui, c'est une activiste. Restez à l'écoute. Je vous reviens.
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Ma boba, ma coña.
Mozart. Et le titre de la pièce, c'est Dissédé. Voilà, notre invitée déjà au bout du fil, elle va nous parler un peu de son engagement et de l'engagement de l'organisme auquel elle appartient, bien sûr. C'est Sayara Thurston, spécialiste de campagne fraude des produits de la mer à Oceana, Canada. C'est une rédactrice activiste qui vit à Montréal, bien sûr, c'est une Montréalaise, qui a œuvré auprès de plusieurs organismes de défense de l'environnement, de justice sociale et des droits des animaux pendant plus de 10 ans et a participé à des campagnes fructueuses visant à interdire le commerce des nageoires de requins au Canada et l'amélioration du bien-être animalier dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises. Voilà, c'est, je pense bien qu'elle est mieux placée pour nous parler de l'extinction des baleines noires là-bas de l'autre côté de l'Atlantique Nord. Bonjour Sayara Thurston, comment allez-vous?
Bonjour, très bien, merci.
Merci d'avoir eu le temps de venir nous parler de cette histoire de collusion des baleines avec les navires dans l'Atlantique Nord. Comment ça se passe? Est-ce que le ministère des Transports, est-ce que Transport Canada vous écoute?
Alors, il y a plusieurs choses en jeu. C'est sûr que le Transport Canada a pris des mesures pour oui. protéger les baleines noires. Mais quand on parle des baleines noires de l'Atlantique Nord, c'est une espèce qui est très, très menacée,
oui.
Gravement menacée. Donc, c'est une espèce où il reste environ 330 animaux seulement dans le monde.
Seulement 330?
Oui, oui, et c'est un chiffre qui a baissé dans les dernières années, donc ça va pas dans le bon sens.
Oui, bah, et pourtant il y avait des milliers avant.
C'est ça, et c'est une espèce de baleine qui était beaucoup chassée dans le passé, mais après on a laissé se réaffaiblir un petit peu, mais là on commence à voir la mauvaise tendance, donc on perd plus d'animaux qui naissent. Alors, le Transport Canada a pris des mesures pour les protéger, mais parce que c'est une espèce qui est tellement menacée, il faut faire plus si on veut les sauver.
Vous leur avez dit ça?
Comment?
Est-ce que vous leur avez dit ça? Est-ce que Oceana Canada leur a dit ça?
Oui, oui, oui. On parle beaucoup avec le gouvernement, on travaille avec eux là-dessus. Et comme j'ai dit, il y a de la volonté. Ils vont agir sur les navires et sur la question. Ben, l'autre menace principale pour ces baleines, c'est des empêtrements
oui.
dans les cordes de pêche. Donc oui. sur les deux enjeux, le gouvernement a pris des étapes.
Oh, mais oui. Des engagements.
Des engagements, oui, mais c'est en fait, il faut aller plus loin.
Il faut aller plus loin. C'est-à-dire que c'est pas suffisant, les engagements qui ont déjà été pris.
Exactement, parce que si on ne fait pas tout ce qui est dans nos pouvoirs, on va voir l'extinction d'une espèce de baleine dans les eaux canadiennes pendant nos vies, qui n'est pas quelque chose qu'on a vu depuis très longtemps, et c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir non plus.
Non, moi non plus. Moi non plus. Avant d'aller de l'avant, présente-nous un peu l'organisme Oceana Canada.
On est une organisation de conservation des océans, donc en fait le plus grand dans le monde qui se consacre uniquement à la protection des océans.
Oui.
Et on travaille ici au Canada sur plusieurs enjeux, plusieurs campagnes, donc les baleines noires, pour protéger les baleines noires, pour réétablir les pêcheries canadiennes, pour combattre la pêche illégale autour du monde et pour lutter contre la pollution de plastique dans les océans. Donc,
oui.
Sur plusieurs enjeux, il y a du travail à faire.
Oui, oui. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai reçu les documents protection des baleines noires contre les collisions avec les navires. Alors, les navires, là, cette partie de l'océan, ça dit que c'est une partie qui est très fréquentée par les gros navires, d'ailleurs. C'est ce qui fait qu'il y a souvent des collisions là-bas. Quand vous les abordez, vous parlez souvent de la vitesse des navires. Est-ce que quand Transport Canada dit aux propriétaires de navires ou bien au capitaine, bon, n'allez pas vite, est-ce que c'est respecté? Comment ils arrivent à les mettre au pas, si je peux m'exprimer ainsi?
Ce que nous, on voulait savoir dernièrement, donc on a fait une étude et on vient de sortir les résultats, c'est si justement les restrictions de vitesse volontaires se faisaient respecter. Parce qu'il y a ces restrictions volontaires, mais il y en a aussi des restrictions de vitesse obligatoires.
Oui.
Donc, dans les zones où il y a les restrictions de vitesse obligatoires, On voit un taux de conformité très, très élevé. Donc, il y a très peu de navires qui respectent pas les limites obligatoires. Mais depuis 2 ans, dans le détroit de Cabo, qui est, comme vous dites, c'est un passage très important pour les navires et pour les baleines, parce que c'est une espèce migratoire.
Oui.
Donc là, par contre, il y a juste une limite de vitesse volontaire depuis 2 ans. Donc, le Transport Canada, ils ont fait un essai pour voir si une limite volontaire allait se faire respecter. Et ce que nous, on a trouvé, c'est qu'en fait, non, pas vraiment. Donc, dans 68% des trajets, la limite volontaire suggérée de 10 nœuds n'était pas respectée. Donc, ce qu'on aimerait voir...
Ouais, 10 nœuds, ça fait à peu près 18,5 km à l'heure.
Oui, sur la mer, on parle en nœuds.
Oh, oui, on parle en nœuds. Oui. Bon, ça fait 18,5 km à l'heure, là-bas, dans l'eau, dans l'océan, pour les bateaux, pour les gros navires.
Oui, et bon. C'est... En fait, il y a des études qui montrent que à 10 nœuds, ça augmente les chances énormément que s'il y a une collision avec une baleine, les chances que l'animal va se survivre. Donc, plus qu'un navire va vite, plus qu'il y a des chances s'il y a une collision que ça va tuer une baleine.
Oui. Alors que si le navire respecte les 10 nœuds, la baleine a une chance de survivre.
Exactement.
Waouh, mais est-ce que c'est si compliqué que ça, les capitaines qui sont à bord de ces navires-là? Pourquoi ils ne rejettent pas ces gens?
Bon, c'est pourquoi... on peut comprendre pourquoi, parce que voilà, on parle beaucoup des chaînes d'approvisionnement ces jours-ci, et voilà, le transport, c'est une industrie compétitive quand même. Donc,
oui, il faut aller vite pour livrer, quoi, la marchandise.
Oui,
oui.
Et si moi je suis capitaine et j'ai mon échancier, il faut que je sois à Montréal.
Vous en êtes consciente, ça dit qu'Océana Canada est consciente de la situation?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, si la limite de vitesse est rendue obligatoire, ce que ça fait, ça donne la chance au navire, au capitaine, de planifier leur voyage, parce que, comme j'ai dit, dans les zones où il y a les limites de vitesse obligatoires, ils sont respectés. Donc, ça donne l'occasion des navires de mettre ça dans leur trajet, de faire leur plan de voyage en connaissant qu'il y a une zone de vitesse restrictée à tel endroit. Mais si c'est juste suggéré, je sais que mes concurrents, ils sont pas obligé à le respecter, ben moi non plus, je vais sûrement pas le respecter
parce que voilà, je complète ce que vous venez de dire, parce que là, quand Transport Canada donne des périodes en 2020 et depuis 2021, Transport Canada a mis en place une mesure volontaire dans le détroit du Cabo. Mais pourquoi une mesure? Pourquoi c'est pas obligatoire partout?
C'est une bonne question. En 2020, c'était pour la première fois que c'était mis en place en printemps et en automne pour justement, c'est les périodes où on sait que les baleines y font leur migration.
Oui.
Donc, on aurait aimé voir l'année dernière, en 2021, après voilà la première année où on a fait justement aussi cette analyse, et on a trouvé que dans la première année, les limites de vitesse n'étaient pas respectées non plus par la majorité des navires.
Il y a toujours des récalcitrants.
Oui, mais on n'a pas vu l'année dernière que c'était rendu obligatoire, donc on fait l'appel à nouveau. C'est une bonne nouvelle qu'on n'a pas vu de mort de baleines dans les eaux canadiennes dans les dernières 2 ans.
Tant mieux, mais, tant mieux.
Oui, tant mieux, mais on peut pas abandonner cette cause, parce qu'on sait que quand même qu'on n'a pas vu de mort ici, la population, ça baisse quand même. Donc il y a deux ans, il y avait à peu près 400 baleines noires qui restaient dans le monde. Maintenant, on est rendu à 330, comme j'ai
330,
dit.
Il y a eu des morts.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a des morts.
Il y a eu plus de morts que de naissances.
Que de naissances, oui, malheureusement. Voilà, on va faire une petite pause musicale et puis je vous reviens.
Parfait, merci.
Merci.
jeunes se mêlent, délaissant tous ceux qui m'aimaient, promettant que je ne reviendrai jamais. J'avais ma petite idée de la grande vie, c'était tout ce dont j'avais envie. Mais fuir l'ennui dans les aventures ne rend personne plus mature. Je n'ai pas cherché, je me suis caché, mais c'est l'amour qui m'a trouvé. Tu peux rester, je vais t'aimer, car enfin l'amour m'a trouvé. Chercher ce qu'il veut, l'homme heureux regarde chez eux. Je n'ai pas cherché, je me suis caché, mais c'est l'amour qui m'a trouvé. Tu peux m'aimer, je veux rester, car enfin l'amour m'a trouvé. Je retrouverai celle qui m'aimait et je ne la quitterai plus jamais. J'ai pas cherché, je me suis caché, mais c'est l'amour qui m'a trouvé. Tu peux rester, je vais t'aimer, car enfin l'amour m'a trouvé. Je n'ai pas cherché, je me suis caché, et c'est l'amour.
Martin Lavoie, l'amour m'a trouvé. Alors, notre invité est encore avec nous. On va continuer de parler des baleines noires pour ceux qui viennent de nous prendre en route. Sayara Tourson, qui est spécialiste de campagne de fraude des fruits de mer au Oceana Canada, parler un peu de la protection des baleines noires contre les collisions avec les navires. Ce beau résultat, ce tableau que j'ai en face de moi ici, quand je vois ça, je dis waouh, très beau travail à vous et à toute l'équipe de Oceana Canada, Sayara.
Merci.
Et puis, on va continuer avec les ralentissements en question. Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que Oceana Canada est satisfaite de l'apport ou bien de l'implication de Transport Canada?
La réponse courte, c'est non, parce qu'on continue à voir justement un taux de non-conformité dans le détroit de Cabo pour la restriction de vitesse assez haut. Mmh. On peut pas considérer cet essai comme un succès vu le taux de non-conformité. Et ce que ça veut dire en fait, c'est que à chaque trajet où il y a un navire qui excelle la limite des vitesses, ça met en risque les baleines noires, qui est une espèce extrêmement menacée. C'est quand on regarde c'est une espèce où on connaît pratiquement tous les individus, tellement qu'il y en a pas, et ce sont des animaux qui sont nommés pour les cicatrices qu'ils ont. Suite aux blessures des navires subies plus tôt dans leur vie. Donc c'est une baleine qui a beaucoup de risques dans sa vie.
Oui. Mais bon, si on peut parler un peu brièvement des pêcheurs, pourquoi les gens pêchent les baleines? Est-ce que c'est pour la viande? Est-ce que c'est pourquoi? Pourquoi ils pêchent? Pourquoi les gens pêchent les baleines au fait?
C'est plus fait au Canada, la chasse aux baleines, heureusement.
Oui.
Alors ça c'est une bonne nouvelle, mais les baleines noires, c'est une espèce qui était beaucoup chassée dans le passé.
Oui.
Alors ça fait beaucoup de dommages à leur population. Et maintenant, en fait, quand on parle de pêcheurs, donc il y a beaucoup dans le golfe de Saint-Laurent de pêcheurs de crabes et de homards. Pour les baleines qui sont plus chassées, mais qui sont à risque à cause des cordes de ces industries de pêche. Donc, ils sont souvent empêtrés
Oui.
dans ces engins de pêche et qui, ça peut mener en fait à des morts lentes et assez affreux en fait si les animaux sont empêtrés dans des cordes et peuvent pas
Dans les
bien
filets, oui, c'est
nager,
ça,
oui,
c'est ça.
bien se nourrir. Ça, c'est l'autre grande menace pour cette espèce, c'est les empêtrements dans ces cordes de pêche un peu partout, mais au Canada, surtout dans le golfe de Saint-Laurent, parce que dans les dernières années, avec les changements climatiques, les baleines noires se sont déplacées leur territoire pour chercher de la nourriture, parce que avec les températures de l'eau qui changent. Avant, en fait, on voyait pas de baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent. C'est une situation qui change assez rapidement. Et c'est pour ça que le gouvernement a dû agir pour avoir des nouvelles mesures pour protéger les baleines noires dans ces nouveaux endroits.
Ouais, on va parler un peu de ce détroit de Cabot là d'ailleurs qui vient du nom de du nom de Jean Cabot là, l'explorateur génois. Voilà, c'est une voie maritime très importante quand même stratégique dans l'histoire du Canada et de Terre-Neuve. Hein.
Oui,
C'est
tout à fait.
ouais, c'est qui est situé complètement, décrivez-nous un peu pour ceux qui ne le savent pas, voilà.
Alors, oui, c'est un passage très important pour les navires, pour les croisières aussi, surtout qui vont à le port de Montréal, par exemple, qui est un des ports les plus importants au
Oui.
Canada. Donc, on voit beaucoup de trafic dans cette zone-là.
Oui.
Et parce que maintenant, avec les baleines noires qui vont à nouveau dans le golfe du Saint-Laurent, c'est aussi un passage très important pour
Oui.
eux.
Oui. C'est un passage
Et
obligatoire et important.
oui, exactement. Alors, le gouvernement a le pouvoir maintenant a des nouvelles technologies pour trouver les baleines, parce que c'est une espèce qui est en fait assez difficile à détecter, parce que c'est pas une espèce qui fait beaucoup de bruit
Oui.
comme certaines d'autres espèces de baleines, et qui c'est très difficile à
Ah,
voir parce qu'ils
ok.
n'ont pas de nageoire dorsale, et c'est un animal très foncé, donc c'est pour ça aussi qu'ils sont très à risque avec des collisions avec les navires.
Oui.
Et c'est un peu cruel même, parce que c'est surtout les mères enceintes et les mères avec des baleineaux qui sont à risque des collisions, parce qu'elles passent plus de temps à la surface de l'eau à se reposer et juste à nager assez lentement.
Oui.
Donc c'est surtout les nouveau-nés et les mamans qui sont à risque des collisions.
Voilà, pour la dernière minute qui nous reste, quel message, vous, en tant que spécialiste de campagne et fraude des fruits de mer à Océana Canada, quel est le message que vous lancez à ceux qui nous écoutent, surtout à Transport Canada et aux pêcheurs?
C'est que, en fait,
Et
en ce
au
moment,
capitaine qui nous écoute aussi, au capitaine
oui,
de bateau.
j'espère qu'il y en a beaucoup.
Oui.
C'est vraiment, il faut tout faire pour protéger cette espèce. Et ce qu'il faut faire au niveau du gouvernement, c'est de mettre en place un régime de protection permanent.
Oui.
En ce moment, ce qu'on a, ce sont des protections qui sont refaits à chaque année. Donc, ils sont pas garantis. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de mort dans les eaux canadiennes dans les 2 dernières années. Ça, c'est une bonne chose, mais on ne peut pas se laisser croire que voilà, le problème est réglé. et on fait plus de mesures de protection. Donc, il faut mettre en place quelque chose de garanti, de permanent, pour protéger cette baleine qui est extrêmement menacée et qui est à risque de mort dans les eaux canadiennes.
Oui, oui. Allez-y. Merci beaucoup, Sayara Thorsten, spécialiste de campagne fraude des fruits de mer à Oceana Canada. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe. Hein, et pour ceux qui aimeraient en savoir plus, allez-y sur le site de Oceana Canada et pour aller avoir toutes les informations. Au plaisir de vous réentendre ici à une autre émission et pour savoir effectivement si tout ce que vous avez fait a donné fruit. Je vous dis merci, bravo à vous et à toute l'équipe de Oceana Canada. Merci.
Merci beaucoup, c'est gentil. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
You reap what you sow 10 times over. What drop off a head must drop on shoulder. We're living in a world full of bad mind people and haters. Nobody fear them, no mind. Go on, love your neighbor. All we need is love. Love. If they remember when you live life, somehow we have to rise up and make a way. You say you want to heal the world and we got to pray, yeah, for some love.
Kimani Marley, Kimani Marley, c'est un des fils de Bob Marley, Love Over All. On dit merci à Marie-Danielle Boucher qui est venue nous parler de bénévolat, de compétences et d'affaires. Et on dit merci aussi à notre deuxième invité, Sayara Thurston, qui est spécialiste de voilà, à Oceana Canada, bien sûr. Je ne vais pas oublier ça. Allez, 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 pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, allez-y, sauvez, allons-y, faisons ensemble un effort pour que Transport Canada et les capitaines de bateaux nous permettent de sauver les baleines noires. Merci à toi, Nicolas. Merci à nos auditeurs et auditrices de leur fidélité. Et je leur dis merci, 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 merci. Et on se retrouve demain, toi et moi, et les autres. Je vous dis ciao.